jusqu'à 21h.
Le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Et maintenant, c'est l'édito économique avec toi, Charlotte.
Ouais, on commence par un chiffre, 40. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est le nombre de villes dans lesquelles aura lieu demain la grande grève pour le climat. Alors moi, je peux que vous inciter à vous y rendre, bien sûr, mais je peux surtout vous expliquer les raisons économiques pour lesquelles il faut protéger la planète et les moyens économiques par lesquels on peut le faire.
Bien alors Charlotte, pourquoi un économiste voudrait-il défendre la planète ?
Eh ben, le premier argument qu'on pourrait trouver à la protection de l'environnement économique, ce serait la tragédie des biens communs, pour reprendre la formule et le titre du livre de Gareth Hardin, un économiste. Il y explique que les commons, c'est-à-dire les biens qui sont rivaux, c'est-à-dire que si j'en profite, un autre ne pourra pas en profiter, mais non exclusifs, c'est-à-dire que je ne peux empêcher personne d'en profiter, comme par exemple les ressources halieutiques, les poissons, je peux empêcher personne de pêcher autour de moi. Par contre, quand moi je pêche, je prends potentiellement les poissons d'un autre. Eh bien, ces biens-là sont par leur nature même menacés, car on peut en profiter autant qu'on veut, mais quand on en profite, on les fait disparaître. Et donc, le problème, c'est que ces commons constituent le capital productif d'un pays. Donc, c'est une catastrophe économique de ne pas les protéger, d'où le fait qu'il faut les réguler pour protéger la planète.
C'est super tout ça, Charlotte, mais je pense que c'est pas le seul argument économique qu'on peut trouver pour justifier d'aller marcher demain.
Eh bien, exactement. Un autre argument économique qu'on pourrait trouver a été mentionné par Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie. Stiglitz s'était insurgé contre la soi-disant efficacité économique brandie par Trump pour justifier de sortir des accords de Paris sur le climat. Et il a fait valoir le fait que ne pas protéger la planète contribue à générer une incertitude qui pèse sur les agents économiques et ainsi pâtit à l'économie. Et par exemple, aux États-Unis, le secteur des assurances a très mal vécu la décision de Trump à l'époque. On pourrait aussi mentionner les travaux de pointe de l'Institut sur le climat de la London School of Economics, la LSE, qui montrent l'instabilité financière qui est générée par le risque climatique.
Waouh, alors Trump n'aurait pas raison sur tout, c'est assez étonnant. Autre chose encore pour nous motiver à make our planet great again ?
Eh ben, un dernier argument, on pourrait mentionner le concept d'externalité négative, comme les économistes l'appellent, qui génère les activités néfastes à l'environnement.
Et c'est quoi ce barbarisme d'externalité négative ?
Eh bien, en fait, les externalités négatives, c'est tout simplement les conséquences négatives d'une activité économique d'un agent sur les autres agents. Et cette activité économique génère donc sur les autres agents un coût supplémentaire pour eux. Par exemple, les activités de pollution d'un individu génèrent des coûts supplémentaires pour les autres agents, des coûts de dépollution par l'État, etc. Donc encore une raison pour les économistes de protéger la planète.
Mais alors Charlotte, dis-moi, comment faire ?
Eh bien, disons qu'en économie, on considère qu'on peut agir grosso modo sur deux choses, les prix ou les quantités, c'est-à-dire en gros les deux composantes d'un marché économique classique.
Alors comment on agit sur les prix par exemple ?
Eh bien, la bonne vieille taxe. Et celle-là, elle a un petit nom, elle s'appelle la taxe pigouvienne, car on la doit aux travaux de Pigou en 1937. Elle stipule que son montant doit être fixé de telle sorte que son prix soit suffisamment désincitatif, de manière à ce qu'il permette de rencontrer une demande limitée d'un produit qui nuit à la planète, pour que sa production soit maîtrisée et encadrée par les pouvoirs publics par ce levier-là.
Et comment on agit sur les quantités alors ?
Eh bien, en fixant des quotas, c'est une mesure radicale, parfois privilégiée par certains économistes, qui permet immédiatement de réguler la quantité produite de biens polluants ou mauvais pour l'environnement.
Et j'imagine qu'il y a encore plein d'autres mesures dont disposent les économistes.
Mais bien sûr, par exemple, développer les incitations avec des outils financiers. Par exemple, le système de bonus-malus qui a été mis en place sur l'achat des véhicules neufs en France. C'est-à-dire que si j'achète un véhicule neuf qui est entre guillemets respectueux de l'environnement, j'ai un bonus. Et au contraire, si j'achète un véhicule neuf dévastateur écologiquement, j'ai un malus sur mon achat.
La seule conclusion possible, alors, c'est protégeons la planète.
Exactement, et j'espère que cette introduction à l'économie de l'environnement vous en aura convaincu.
Merci Charlotte. Et il est 20h57 sur Transistor. Vous avez eu toutes vos informations, on passe à Maxime avec l'édito scientifique.